Allez, on va accueillir comme il se doit notre invité du jour, Michel Favret. Michel, bonjour.
Bonjour Joël.
Bienvenue à Outdoor Radio, comme tous les derniers mercredis du mois. Il y a peut-être eu des exceptions lors de vos voyages. Alors avant de présenter la chronique, rappelez-nous en quelques mots Constellations et Galaxies.
Donc Constellations et
Galaxies. L'association que vous représentez aujourd'hui, oui.
Voilà, une association qui est basée en Dordogne, hein, près de Mussidan, à Saint-Médard, si on veut être précis. Et dont l'activité est principalement la diffusion de la culture scientifique et notamment dans le domaine de l'astronomie, avec en particulier un planétarium itinérant qui peut se rendre un petit peu partout dans la région. En gros, ça va de Bordeaux à Brive et de Angoulême à Villeneuve-sur-Lot, souvent dans des établissements scolaires, mais ça peut être d'autres structures pour expliquer le ciel dans un environnement un peu particulier, puisqu'on a une projection immersive, hein, on est comme dehors, sous le ciel étoilé, en pleine campagne, et je peux expliquer les constellations, les étoiles, les planètes, toutes ces choses-là. D'ailleurs, si des enseignants sont en vacances et veulent en savoir un peu plus, il suffit d'aller voir notre site web, donc je rappelle www.constellationsetgalaxiesaupluriel.org.
Voilà, on le redira à la fin de votre chronique, mais c'était bien de chaque fois le rappeler. Alors, on va attaquer, si je puis dire, cette 38e chronique. Commencer, bien sûr, ça tombe sous le sens par l'actu. Et Michel, est-ce le retour des Américains sur la Lune ?
Oui, alors effectivement, d'une manière un peu inattendue, le président Trump nous permet de rebondir sur ma chronique du mois dernier où j'évoquais l'anniversaire de la fusée Saturne V qui avait permis à la NASA d'atteindre la Lune dans les années 1970 et où nous avions fait le point sur les projets de fusées puissantes permettant les missions habitées en propulsant des capsules et leurs astronautes dans l'espace. Le 11 décembre, c'est une date qu'il avait choisie car c'était le 45e anniversaire du dernier alunissage, hein, celui d'Apollo 17 en 1972, et à grand renfort de publicité comme à son habitude, Trump a signé une directive demandant à la NASA de travailler à des futures missions lunaires visant à établir une base permanente sur la Lune qui pourrait peut-être devenir le tremplin vers une future mission martienne. Cela nous donne l'occasion de rappeler le calendrier de ces projets. Tout d'abord, cette directive n'aura réellement d'effet qu'en 2019, c'est-à-dire lorsque sera concrètement mis en œuvre le budget de la NASA redéfini l'an prochain selon cette politique. Sur le site de la NASA, les dernières informations sur la future fusée SLS, hein, c'est Space Launch System, et la capsule spatiale Orion sont l'assemblage en novembre des tuyères de moteurs en vue du premier tir du SLS, et mi-décembre, le test des parachutes qui permettront le retour sur Terre en douceur de la capsule. Il est toujours assez difficile de trouver la date prévue pour leur premier lancement, mais selon une revue de projet tenue début novembre, la NASA espère toujours tenir le délai de décembre 2019, même si les difficultés identifiées pourraient rendre plus probable juin 2020. Le premier tir avec des astronautes à bord étant espéré, lui, pour 2023. Autant dire que les hommes, en tout cas les Américains, ne seront pas de retour sur la Lune de sitôt. Quant à la perspective de voir une mission habitée martienne se concrétiser dans la décennie 2030, comme annoncé par Trump, elle me paraît vraiment très très optimiste. Il faut dire qu'il semble trouver son inspiration auprès d'Elon Musk, le patron de SpaceX, qui lui croit pouvoir envoyer des hommes vers Mars dès 2024. Pour terminer sur ce sujet, je tiens à préciser que cette politique consistant à favoriser les missions humaines se fait au détriment d'autres projets. Car dès le début de son mandat, Trump a commencé par réduire le budget de la NASA d'environ 9%, et ont été notamment réduits les moyens pour les satellites d'observation de la Terre et plus particulièrement ceux destinés à mesurer et comprendre les phénomènes liés au réchauffement climatique. Mais je pense que tout le monde connaît la position du président Trump sur ce sujet.
Allez, parlez-nous de la découverte d'un système planétaire comparable au système solaire.
Oui, mi-décembre, la NASA a annoncé la découverte d'une 8e planète dans le système Kepler-90, ce qui le rend comparable au système solaire avec ses 8 planètes. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Cette planète est numérotée Kepler-90i, hein, donc je rappelle un petit peu comment ça marche. Kepler, c'est le nom du satellite américain spécialisé dans la recherche des exoplanètes, qui a été lancé en mars 2009 et qui mesure très précisément la luminosité d'environ 145 000 étoiles dans la région de la constellation du Cygne pour y détecter des transits, c'est-à-dire la petite baisse de luminosité d'une étoile indiquant qu'une planète est en train de passer devant en éclipsant une petite partie de son disque lumineux. Par cette méthode, il a déjà découvert 2300 planètes, dont 439 systèmes composés de plusieurs planètes. Il y a encore d'autres détections, hein, qui restent à confirmer par d'autres observatoires. Kepler 90 indique la 90e étoile autour de laquelle il a découvert une exoplanète, cette étoile portant d'ailleurs d'autres noms dans d'autres catalogues d'étoiles. Et le I, hein, 90I, indique la 8e exoplanète découverte autour de cette étoile, car on les indexe par une lettre en commençant à B, le A étant implicitement destiné à désigner l'étoile elle-même. Le système de Kepler 90 est situé plutôt loin de nous, hein, à plus de 2500 années-lumière, un voyage qui prendrait dans les 45 millions d'années avec la sonde spatiale la plus rapide qu'on ait jamais envoyée dans l'espace. Avec cette 8e exoplanète découverte, il est assez comparable au système solaire, avec une étoile assez semblable au Soleil, hein, les astronomes les classant toutes les deux dans la catégorie G, qui sont plutôt des petites étoiles et un peu jaunâtres. Comme pour le Soleil, ses plus grosses planètes sont les plus lointaines de l'étoile, un peu comme Jupiter et Saturne, et les plus petites sont plus proches de l'étoile, comme les planètes telluriques, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. D'ailleurs, Kepler 90i, la dernière découverte, occupe la même place que la Terre dans ce système, c'est-à-dire la troisième en partant de l'étoile, mais elle est beaucoup plus proche de son étoile, car elle effectue une révolution en seulement 14 jours et demi, et pas un an comme pour la Terre. Aussi proche de son étoile, on estime que la température à sa surface pourrait dépasser les 500 degrés, et elle est aussi plus grosse que la Terre, avec une masse environ 2,5 fois plus importante.
Vous m'avez dit qu'il y avait autre chose de spécial concernant cette découverte, Michel.
Effectivement, c'est la façon dont cette découverte a été faite, par un programme d'intelligence artificielle. Il faut comprendre que des télescopes comme Kepler, mais aussi d'autres observatoires astronomiques sur Terre, produisent des quantités énormes de données. Pour Kepler, en mesurant la luminosité de 145 000 étoiles toutes les 30 minutes, il a produit environ 14 milliards de mesures depuis le début de sa mission. On imagine facilement qu'il est difficile d'y détecter les informations intéressantes par une exploitation manuelle, si je peux dire, hein, parce que bien sûr les astronomes utilisent des outils informatiques. Dans cette grande masse de points de mesure, on doit rechercher les petits affaiblissements de la luminosité des étoiles, sans avoir aucune idée du moment où ils se sont produits, ni quelle a été leur durée, ou s'ils se sont répétés régulièrement et à quelle fréquence. Par exemple, si de lointains extraterrestres pouvaient observer les transits des planètes devant le Soleil, ils ne verraient Mercure repasser que tous les 3 mois environ, la Terre une fois par an, et pour Jupiter, bien plus facile à détecter car bien plus grosse, cela ne se produirait que tous les 12 ans. A l'inverse, beaucoup des exoplanètes que nous avons découvertes orbitent en seulement quelques jours autour de leur étoile. Donc cette recherche de transit dans les mesures de Kepler est une tâche compliquée. Pour la réaliser, c'est un outil différent qui est utilisé cette fois par la NASA, un logiciel d'intelligence artificielle appelé TensorFlow, développé par Google et qui possède une capacité de deep learning, comme on dit en bon français, c'est-à-dire la capacité d'apprentissage profond, dont on a déjà beaucoup parlé dans les médias à propos des ordinateurs qui parviennent à battre les maîtres humains au jeu d'échecs ou au jeu de Go, par exemple. Ce programme est conçu pour s'exercer à la tâche à exécuter par une phase d'apprentissage basée sur une répétition massive du jeu, sur parfois des millions de parties. Pour la détection des exoplanètes dans les données de Kepler, on l'a entraîné, hein, si je peux dire, sur un échantillon de 15 000 possibles détections par Kepler, et il a fini par obtenir dans les 96% de réussite à discerner les vrais transits. Sur cette base, on lui a fait analyser les mesures sur 4 ans de seulement 670 étoiles, et il a détecté 2 transits d'exoplanètes qui avaient échappé aux chercheurs jusqu'à présent. Kepler 90i, dont j'ai parlé au début, mais aussi Kepler 80G, donc la 6e planète d'un autre système déjà connu. Bien entendu, ce n'est probablement qu'un début, puisque les données étudiées ne représentent qu'une toute petite partie des mesures enregistrées par Kepler, et on peut s'attendre à d'autres annonces quand ce logiciel aura été appliqué au reste des informations disponibles. Cette évolution technique dans l'exploitation des données recueillies marque sans doute un tournant important aussi bien en astronomie que dans d'autres domaines scientifiques, car les systèmes automatisés de recueil de données, comme Kepler par exemple, produisent souvent des masses d'informations énormes, très difficiles à exploiter efficacement par les méthodes traditionnelles, et il existe sans doute de nombreuses découvertes à venir qui dorment stérilement dans ces grandes bases de données.
Allez, toujours dans l'actualité, découverte d'un quasar trop vieux.
Voilà, c'est dans un article publié début décembre dans la fameuse revue Nature que des astronomes ont annoncé la découverte du quasar le plus lointain jamais observé à ce jour et qui porte un numéro abscon, hein, c'est J1342+0928. C'est en fait son nom abrégé, le nom complet étant encore plus compliqué. Il faut savoir qu'il y a tellement d'objets astronomiques qu'on en est venu à utiliser des systèmes de dénomination utilisant leur position dans le ciel pour les définir, d'où ces espèces d'immatriculation bizarres. Je crois qu'en 3 ans, je n'ai jamais abordé le sujet des quasars dans mes chroniques et c'en est l'occasion. Le mot quasar est un acronyme anglais formé à partir de la contraction de quasi-star, c'est-à-dire en français quasi-stellaire. Ce mot a été inventé pour désigner une nouvelle catégorie d'objets astronomiques découverte à la fin des années 1950 par des radiotélescopes comme des sources radio ayant des très petites tailles dans le ciel, donc ponctuelles comme des étoiles, d'où leur nom de quasi-stellaire. Dès 1960, on a fait le lien entre certains de ces objets avec des sources lumineuses dans le domaine visible, donc observées avec des télescopes optiques, mais quand on décomposait leur lumière en spectre pour les étudier, on ne comprenait rien car on n'arrivait pas à y reconnaître les raies caractéristiques des éléments bien connus comme l'hydrogène. En 1962, Martin Schmidt, en utilisant le plus grand télescope de l'époque, celui de 5 mètres de diamètre installé au Mont Palomar, obtient des spectres dans lesquels il finit par reconnaître des raies de l'hydrogène, mais complètement décalées par rapport à leur position habituelle. C'était l'indication que le quasar observé se trouvait très loin de nous, car avec l'expansion de l'univers, découverte par Edwin Hubble à la fin des années 1920, les galaxies lointaines s'éloignent de nous d'autant plus vite qu'elles sont distantes, ce qui fait que leur spectre est d'autant plus décalé vers le rouge par un effet comparable à l'effet Doppler-Fizeau. C'est ce phénomène qui, par exemple, modifie le son d'une source en mouvement comme la sirène d'une ambulance ou le moteur d'une voiture plus aiguë quand elle se rapproche de nous, plus grave quand elle s'éloigne. Alors, comme on est à la radio, on va essayer de passer un son. On peut peut-être le refaire 2 fois parce qu'il ne dure que 5 secondes. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est quand la source s'approche de nous, les ondes sonores sont tassées devant, donc décalées vers l'aigu. Sauf que dans le domaine de la lumière ou de l'astronomie, décalé vers l'aigu, ça veut dire décalé vers le bleu. Et à l'inverse, quand la source s'éloigne de nous, les ondes sont écartées à l'arrière du mobile, donc sont décalées vers le grave, ce qui en lumière veut dire décalé vers le rouge. Hein. On utilise souvent le terme anglais « redshift » pour parler de ça, décalage vers le rouge. Avec le décalage mesuré dans le spectre du quasar, on peut connaître la vitesse de son éloignement, qui est d'autant plus grande que le décalage est grand. Et à partir de cette vitesse et la loi de Hubble, on peut déterminer sa distance, qui s'est révélée très grande, dans les 2,5 milliards d'années-lumière. Et on a donc constaté qu'il s'agissait d'un objet extrêmement lumineux, vu la puissance de son émission, observé à une telle distance. En étudiant ces quasars, les astronomes sont parvenus à établir leurs caractéristiques. Il s'agit d'une famille de galaxies très actives, vu leur très forte luminosité. Ce qu'on explique par la présence, en leur centre, d'un trou noir supermassif, comme pour toutes les grandes galaxies, mais cela extrêmement massif, représentant une grosse part de la masse de ces galaxies. Par comparaison, celui qui se trouve au centre de la Voie lactée, un autre galaxie à nous, ne représente que, si j'ose dire, quelques millions de fois la masse du Soleil dans une galaxie qui, elle, fait dans les 200 milliards de fois la masse du Soleil, donc une toute petite fraction. Pour le nouveau quasar, je le redis, J1342+0928, c'est un trou noir estimé à 800 millions de fois la masse du Soleil. Dans les quasars, l'énorme trou noir absorbe une grande partie de la matière qui l'entoure, produisant cette puissante émission de lumière et d'ondes radio, provenant de cette matière fortement accélérée en chutant vers lui. Pour donner un ordre de grandeur, on connaît un quasar dans la constellation de la Vierge, qui est baptisé 3C273, c'est celui que Schmidt avait étudié dans les années 60, et qui brille environ 100 fois plus que toute la Voie lactée, ce qui en fait un des rares quasars observables, même dans des petits télescopes. Donc l'objet le plus lointain visible pour les astronomes amateurs, à près de 2,5 milliards d'années-lumière, soit environ 1000 fois plus loin que la grande galaxie d'Andromède, qui est l'objet le plus lointain visible à l'œil nu dans le ciel. Aujourd'hui, on connaît plus de 100 000 quasars dans l'univers qui se répartissent entre des distances d'un peu moins de 1 milliard d'années-lumière jusqu'à presque 13 milliards d'années-lumière, 12,9 si on veut être précis, qui était la distance record jusqu'à la publication de cette nouvelle découverte de cette année qui porte cette limite à 13,1 milliards d'années-lumière.
Et ça fait une assez grande différence, Michel ?
Oui, mais pour le comprendre, il faut faire un peu de cosmologie, c'est-à-dire remonter le temps vers le début de l'univers en se rapprochant du fameux Big Bang. Je rappelle aux auditeurs que comme la lumière se déplace à une vitesse finie, même si elle est très grande, plus on regarde loin dans l'univers, plus on regarde loin dans le passé, voyant l'objet comme il était au moment où est partie la lumière qui nous arrive maintenant. On voit la Lune comme elle était il y a environ 1 seconde dans le passé, le Soleil environ 8 minutes et demie, les étoiles comme elles étaient il y a des années, des dizaines d'années, des siècles, voire des milliers d'années dans le passé, suivant leur distance, le temps que la lumière a mis pour nous parvenir. Par exemple, pour les étoiles bien connues de la grande casserole, hein, la partie la plus populaire de la grande ours, c'est entre 78 ans pour la plus proche, qui s'appelle Mizar, et 123 ans pour la plus éloignée, c'est Dubé. On pourrait dire que ce petit, hein, si j'ose dire, décalage ne change pas grand-chose, car les étoiles évoluent plutôt sur des millions d'années. Mais il en va très différemment pour les galaxies observées à des millions d'années-lumière, et encore plus avec les quasars à des milliards d'années-lumière. Avec certains d'entre eux, on s'approche de la limite de l'univers visible, puisqu'on comprend bien qu'on ne peut pas voir un objet situé plus loin que la distance parcourue par la lumière depuis le début de l'univers, soit dans les 13,8 milliards d'années, selon les estimations actuelles. Avec le nouveau quasar découvert, on remonte donc dans le passé à seulement 690 millions d'années après le Big Bang, soit seulement 5% de l'âge actuel de l'univers. Donc si j'ose dire, cette comparaison, à un stade très enfantin de l'univers. Hein, ce serait à peu près un enfant de 3-4 ans si on compare la durée de l'univers à une vie humaine. C'est ça qui pose question aux astronomes, car notre modèle de Big Bang décrit l'évolution de l'univers jusqu'à nos jours en passant par des stades très différents de ce que nous connaissons aujourd'hui, étapes qui peuvent être datées en fonction des théories physiques actuelles. Or, dans ce modèle, on estimait que les premières étoiles et galaxies ont dû apparaître quelques centaines de millions d'années après le Big Bang, dans les 500 millions d'années environ pour les étoiles les plus anciennes qu'on a pu observer. Et donc, on s'interroge pour comprendre comment un tel monstre de trous noirs, hein, je rappelle 800 millions de fois la masse du Soleil, a pu apparaître aussitôt. Alors, il pourrait s'agir tout simplement d'un cas isolé très particulier, une sorte de bébé précoce, si je peux dire. Mais il se peut aussi que ce quasar remette en cause en partie la chronologie du Big Bang pour la formation des premières étoiles et galaxies, peut-être plus tôt que ce qu'on pensait jusqu'à maintenant.
Allez, deuxième partie de votre 38e chronique, voilà, autour du thème le solstice d'hiver et Noël. Alors, on recycle les chroniques?
Voilà, comme j'ai eu peu de temps pour préparer cette chronique en raison des fêtes, je dois avouer que j'ai repris des thèmes déjà abordés ici, notamment en décembre 2014. Mais comme cela fait déjà 3 ans, je me suis dit que ça pouvait intéresser de nouveaux auditeurs de Haut de Radio ou faire une petite révision pour les autres. Le point de départ est la grande proximité dans le calendrier d'un événement astronomique, le solstice d'hiver du 21 décembre, et de la fête religieuse de Noël dans la nuit du 24 au 25. Nous verrons que cela n'a rien d'un hasard. Alors je ne rediscuterai pas aujourd'hui du débat sur la véritable date de naissance du Christ, hein, que les chrétiens sont censés fêter à Noël, sujet que j'avais abordé l'an dernier à propos de la fameuse étoile de Bethléem. Hein, c'est la chronique numéro 28 et je rappelle que les chroniques sont disponibles à la réécoute sur notre site web. Mais je rappelle juste que le choix du 25 décembre remonte en fait au 4e siècle de notre ère et pour être précis à Rome en 336, donc bien longtemps après l'événement supposé et bien loin de Bethléem. Mais je vais d'abord parler des saisons, car partout sur Terre on peut distinguer dans l'année une période plus chaude, l'été, et une plus froide, l'hiver. Et même sous des latitudes moyennes comme celle de la France, deux saisons intermédiaires de transition, le printemps et l'automne, les cycles étant un peu différents dans les zones polaires ou équatoriales. On va voir ensemble l'aspect astronomique de ces cycles, mais il ne faut pas oublier que d'autres phénomènes jouent aussi. J'aime bien rappeler qu'à la même latitude que Bordeaux, soit environ 45 degrés nord, à mi-chemin entre Équateur et Pôle Nord, de l'autre côté de l'Atlantique, on trouve Montréal, dont le climat n'est évidemment pas du tout le même avec un hiver très rigoureux. La différence vient essentiellement du Gulf Stream, le puissant courant marin qui transporte des eaux chaudes du golfe du Mexique jusqu'aux côtes européennes. Cela nous rappelle le rôle important que jouent les océans, les courants marins, mais aussi l'atmosphère dans les phénomènes de climat et de saison. Si on revient au domaine astronomique, je vais d'abord tordre le cou à une idée fausse que j'entends encore beaucoup trop souvent quand j'évoque la question des saisons, aussi bien chez des enfants que dans la bouche des adultes. Sachant que l'orbite de la Terre autour du Soleil est une ellipse, certains croient que l'été correspond tout simplement à la période pendant laquelle nous serions les plus proches du Soleil, et l'hiver au plus loin. C'est totalement faux. Pour commencer, l'orbite de la Terre est une ellipse très peu aplatie, presque un cercle. Donc ces variations de distance au Soleil sont très faibles, dans les 3% environ. Ensuite, il y a un petit problème tout simple avec cette explication. Il est difficile de comprendre que les saisons sont inversées entre l'hémisphère nord et le sud. En ce moment, c'est l'été dans le sud, alors que nous sommes tous à la même distance du Soleil. Enfin, pour s'en convaincre, il suffit de consulter le calendrier ou plutôt les éphémérides. C'est toujours début janvier, donc en plein hiver pour nous, que la Terre passe au plus près du Soleil. Pour être précis, notre prochain passage au périhélie, comme on appelle ce point particulier de l'orbite de la Terre, sera le 3 janvier 2018 à 6h du matin. Et nous serons le plus loin du Soleil le 6 juillet à 17h au début de l'été.
Mais alors, d'où viennent les saisons ?
L'origine est très simple. Tout le monde a sans doute déjà remarqué que des globes terrestres sont toujours représentés avec un axe de rotation pôle sud, pôle nord un peu penché et non pas vertical. C'est parce que la Terre, ou plutôt son axe de rotation, est bien incliné par rapport au Soleil d'un angle d'environ 23,5 degrés. C'est cette inclinaison qui est à l'origine des saisons, comme pour d'autres planètes d'ailleurs, comme Mars, qui est inclinée, elle, de 25 degrés, et présente donc des cycles de saisons assez comparables à ceux de la Terre, du moins du point de vue astronomique, car il n'y a là-bas pas d'océan et presque pas d'atmosphère. Si on se représente la Terre inclinée en train de parcourir son orbite autour du Soleil, pendant la moitié d'un tour, soit 6 mois, le pôle Nord est incliné vers le Soleil, puis pendant 6 mois à son opposé, car l'axe de rotation pointe toujours dans la même direction, celle de l'étoile polaire, en raison d'un effet de gyroscope, si l'on peut dire, provoqué par sa rotation. Vu depuis la Terre, dans le ciel, ce cycle correspond au fait que pendant la moitié de l'année, le Soleil est au-dessus de l'équateur de la Terre, qu'on peut dessiner en le projetant sur la voûte céleste, et l'autre moitié en dessous. Si l'on dessine le trajet apparent du Soleil devant les étoiles, puisque vu de la Terre, on a l'illusion que c'est lui qui décrit en un an un grand cercle autour de nous, cercle qu'on appelle l'écliptique, il est incliné d'environ 23,5 degrés par rapport à l'équateur, avec la moitié au-dessus et l'autre en dessous, les deux cercles se coupant à deux points opposés. Quand le Soleil se trouve exactement à l'un de ces points, il se lève exactement à l'est et se couche à l'ouest et reste précisément 12 heures dans le ciel. On appelle ces jours des équinoxes. Car la durée des journées, 12 heures de soleil dans le ciel, est exactement égale à la nuit, ou plutôt l'absence du soleil dans le ciel. Équinoxe veut dire en latin nuit égale, donc nuit égale au jour, bien sûr. Les dates peuvent légèrement varier en raison des années bissextiles, mais ce sont généralement le 21 mars pour l'équinoxe de printemps et le 22 septembre pour celui d'automne, car par convention, on fait débuter administrativement ces saisons à ces dates, comme c'est inscrit sur nos calendriers. Sur l'écliptique, on peut aussi noter deux autres points remarquables, celui où le Soleil se trouve le plus écarté au nord de l'équateur et celui où il est le plus écarté au sud. Ils correspondent généralement au 21 juin et au 21 décembre, jour qu'on appelle solstice. Le terme solstice vient aussi du latin et signifie à peu près « le Soleil s'arrête ». Car si on observe par exemple le coucher du Soleil, on constatera qu'étant pile à l'ouest le 22 septembre, il s'est décalé jour après jour vers le sud jusqu'à ce 21 décembre, où il s'est arrêté pour repartir dans l'autre sens et se retrouve exactement à l'ouest de nouveau le 21 mars. Et l'inverse au nord pour le solstice d'été. Le mécanisme des saisons est donc le suivant. Quand à cause de l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre, le Soleil se trouve au-dessus de l'équateur, donc au nord, il effectue un parcours plus long dans le ciel, donc une journée plus longue, pendant laquelle il nous chauffe plus efficacement, d'autant plus qu'il monte plus haut dans le ciel. La nuit plus courte que le jour nous refroidit moins, et donc le bilan global est que la Terre, ou plus précisément son hémisphère nord où on se trouve, se réchauffe, surtout son atmosphère et ses océans. C'est donc la période chaude, printemps et été, dont le maximum est retardé en raison de l'inertie thermique des océans. Alors que le jour le plus long de l'année, pour nous, est le 21 juin, c'est plutôt entre mi-juillet et mi-août qu'il fait le plus chaud. Et c'est l'inverse pour l'hiver, avec des journées plus courtes que les nuits, et un soleil nous chauffant moins efficacement car montant moins haut dans le ciel, et aussi le même décalage entre le solstice d'hiver du 21 décembre, jour le plus court de l'année pour nous, et le cœur froid de la saison entre mi-janvier et mi-février en général, le temps que les océans se refroidissent, bien sûr ça puisse varier d'une année à l'autre en fonction de la météo. Et c'est inversé dans le sud, car lorsque le pôle nord est incliné vers le soleil, le pôle sud, lui, est incliné à l'opposé, et vice-versa. C'est d'ailleurs amusant de voir dans le sud, comme en Australie où j'étais en décembre 2000, que Noël est en plein été, avec tout le monde suant en short et en t-shirt, alors que les vitrines sont décorées de sapins et de flocons de neige, et que les pauvres Pères Noël qui accueillent les enfants dans les magasins doivent vivre un vrai calvaire sous leur manteau.
Alors justement, quel est le rapport avec Noël ?
Alors c'est tout simplement l'histoire d'une petite religion nouvelle, l'Église chrétienne, qui cherche à s'implanter un peu partout, en remplacement des croyances dites païennes qui préexistaient en Europe. Depuis le paléolithique, quand l'homme s'est mis à l'agriculture en se sédentarisant, le cycle des saisons était vital, puisqu'il cadence le cycle des cultures et des travaux. Le labourage, les semailles, les moissons ou les vendanges, par exemple. On le voit nettement dans de nombreux monuments anciens qui sont parfaitement orientés par rapport au soleil, c'est-à-dire par rapport au solstice. Par exemple, j'ai visité en Irlande le monument qui s'appelle New Grange, où un tumulus d'environ 60 mètres de diamètre est tellement bien construit que les rayons du soleil ne pénètrent au fond de sa salle funéraire que le jour du solstice d'hiver. On connaît tous aussi le fameux cercle de pierre de Stonehenge, mais il y a de nombreux autres exemples. Avec ces monuments allaient aussi des célébrations, des fêtes, que certains essaient d'ailleurs de ressusciter de nos jours, mais probablement en se trompant de date. En effet, si pour le folklore et les touristes, il est plus agréable de faire la fête en juin, c'est probablement le solstice d'hiver qui était le plus important, car il marquait la fin du déclin progressif du cycle solaire pour un renouveau qui avait sans doute un écho dans des croyances en la possibilité d'une résurrection des morts dans un autre monde. Donc, quand la religion chrétienne arrive sur un territoire où ses coutumes existent depuis des lustres, en voulant imposer son propre calendrier basé sur les événements relatés dans les évangiles, il lui était très difficile de changer du tout au tout, mais beaucoup plus facile de recycler, si je peux dire, les anciennes fêtes annuelles en leur donnant une nouvelle interprétation. Et c'est comme ça que la fête du solstice d'hiver du 21 décembre se transforme en Noël du 25 décembre, qui était déjà d'ailleurs la fête de naissance du soleil. Alors, je vais essayer en latin, mais ça devrait être quelque chose comme « Dies Natalis Solis Invicti » chez les Romains, adeptes du culte de Mitra. Et le solstice d'été du 21 juin devient l'occasion de faire les fameux feux de la Saint-Jean, fêtant en principe la naissance de Saint-Jean-Baptiste. On peut remarquer que chez les chrétiens, on est beaucoup au moment des solstices. Il n'y a donc en fait aucune coïncidence dans ces proximités de date, juste une affaire de stratégie d'implantation, si on utilise le langage du marketing contemporain.
Allez, troisième partie de votre chronique, le ciel du mois.
Alors comme la dernière fois, je vais essayer de résumer cette partie en renvoyant plutôt les auditeurs vers la rubrique ciel du mois, hein, qu'on trouve dans la section astronomie de notre site web, www.constellations-et-galaxies, car c'est plus simple d'avoir les cartes du ciel correspondantes et d'avoir plus de détails. Depuis le solstice d'hiver, les journées ont recommencé à s'allonger, mais cela reste très modeste pour le moment, avec le coucher du soleil avant 17h30 et un début de nuit noire vers 18h30. Fin janvier, cela aura quand même un peu évolué d'une bonne demi-heure, avec un coucher vers 18h et la nuit vers 19h15. À peine entré dans l'hiver, nous voyons encore les constellations typiques de l'automne, dont Pégase, occupait une bonne partie du ciel en début de nuit, vers le sud-sud-ouest. Mais celle de l'hiver commence à être bien visible vers l'est, notamment Orion, levé maintenant vers 19h. Fin janvier, à la même heure, il sera bien plus haut dans le ciel, avec toutes ses constellations voisines, excepté le Grand Chien, où se trouve l'étoile Sirius, la plus brillante du ciel, qui sera encore partiellement masquée par l'horizon. Pour se repérer dans le ciel d'hiver, une fois reconnue la silhouette humaine que dessine Orion, on remarque que les étoiles les plus brillantes qui l'entourent forment comme un grand G dans le ciel, figure permettant de parcourir toutes les constellations majeures de la saison, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et en partant de la droite d'Orion, c'est-à-dire à l'ouest d'Orion, le Taureau, le Cocher, les Gémeaux, le Petit et le Grand Chien, et enfin Orion qui ferme la figure du G, la barre étant formée par la ligne de ses épaules, les étoiles Bellatrix et Bételgeuse. Il n'y a actuellement pas de planète observable le soir, et c'est surtout Jupiter qu'on peut remarquer très brillante le matin vers l'est à partir de 4h30 actuellement, mais fin janvier elle se lèvera avant 3h. Elle est accompagnée de Mars, environ 3 quarts d'heure plus tôt actuellement, et à l'inverse 3 quarts d'heure plus tard fin janvier. Mars qui reste encore peu lumineuse, à peu près comme une étoile brillante, mais peut se reconnaître à sa teinte orangée. Les deux planètes se frôleront dans le ciel du matin, dimanche 7 janvier. Comme il y a peu de planètes observables en ce moment, il y a peu d'autres conjonctions dans les éphémérides de janvier, seulement le matin du jeudi 11, où le croissant de lune sera très proche des deux planètes, Mars et Jupiter. Le 31 janvier, il y aura une éclipse totale de lune, mais elle ne sera visible qu'en Asie et dans le Pacifique, donc pas du tout en Europe. Et pour terminer cette chronique, je souhaite à nos auditeurs de bien terminer 2017 et surtout, avec un peu d'avance, une bonne et heureuse année 2018, car notre prochain rendez-vous, en principe le mercredi 31 janvier, est un peu tardif pour procéder à ce petit rituel annuel.
Voilà, mais il sera encore temps. Hein.
On est ça.
Le 31, mais c'est bien voilà, de se souhaiter plein de bonnes choses mutuellement. Alors Michel, sur l'actu, hein, donc hors chronique, mais une info... Vous allez nous parler d'une expo hein, que vous nous recommandez, mais il faudra néanmoins se déplacer sur Paris, hein, si
voilà.
Je m'en suis dit. 2h04 en LGV. Hein.
D'accord, j'ai pas essayé. Oui, en fait, j'étais pour les fêtes en région parisienne chez mes enfants et j'en ai profité hier matin pour visiter une expo qui se trouve au Muséum d'Histoire Naturelle hein, dans la Grande Galerie de l'Évolution et qui s'appelle « Entre ciel et terre » et elle parle des météorites. Hein, cette expo... Donc c'est à Paris, elle durera jusqu'à début juin, je crois le 10 juin 2018, donc il y a encore pas mal de temps pour aller la voir, pour des auditeurs qui pourraient aller sur Paris. Alors j'en parle parce que je l'ai visitée, elle est vraiment très 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 bien, avec des énormes météorites, il y en a qui pèsent plus de 600 kilos, des météorites très très rares comme des météorites lunaires ou martiennes, et pour les enfants c'est super parce qu'on peut même les toucher ces deux-là, donc on peut toucher un petit bout de lune ou un petit bout de Mars. Il y a aussi beaucoup d'explications sur les différents types de météorites, différenciés, indifférenciés. Enfin bon, après, ça devient un petit peu technique, mais c'est vraiment une très très belle expo sur les météorites et ça vaut le coup d'aller la voir.
Voilà, mais on en dira quelques mots également via le Facebook. Hein. Voilà, une belle photo. C'est quoi, c'est un ouvrage que vous êtes procuré sur les météorites?
Ben c'est un
ça,
petit,
ça illustre le.
C'est un petit cadeau de Noël. C'est le bouquin de l'expo qu'un de mes enfants m'a offert à l'occasion.
Voilà, donc c'est super. Alors Michel, on se revoit donc fin janvier. On va redire quelques mots, même si vous le présentez régulièrement et notamment en préambule de votre chronique. Alors redites-nous quelques mots sur l'association Constellations et Galaxies, bien sûr via le site, toutes les infos, l'actu,
voilà,
www.constellationsetgalaxies.org.
C'est organisé sous forme d'onglets. Les plus importants pour nos éditeurs, c'est la partie astronomie, où il y a le ciel du mois avec les cartes. Alors, pour le moment, c'est encore décembre, on est encore le 27 décembre, mais je pense que d'ici ce week-end, j'aurai mis en ligne les infos et les cartes correspondant à janvier. Et plus sérieusement, disons, pour la partie professionnelle, c'est l'onglet Planétarium, où on trouve toutes les explications, la place qu'il faut pour l'installer, en quoi consiste une séance, sachant bien qu'à chaque fois, je discute au préalable avec les enseignants, avec l'équipe pédagogique, pour éventuellement adapter la séance à des demandes particulières. Et puis les tarifs, parce que malheureusement, n'étant pas soutenu énormément par les collectivités publiques, on doit faire payer nos prestations.
Voilà, mais tout expliqué sur le site. Michel, on se retrouve donc l'an prochain. Voilà, il va falloir attendre.
Voilà.
On se retrouve l'année prochaine.
On n'attend pas un an, c'est juste un mois.
Bien sûr,
un
bien
mois
sûr.
Et une semaine.
Le 31 janvier, allez, on vous souhaite de continuer à passer de bons moments sur cette période dite festive. On se retrouve fin janvier. Allez, encore un grand merci à vous, Michel, pour tout ce travail de réalisation, de présentation. Voilà, et c'était la 38e chronique Astro.